Bonjour à tous. De Vilnius à la frontière biélorusse, une chaîne humaine pour soutenir les opposants à Alexandre Loukachenko. Nous rejoindrons dans un instant nos envoyés spéciaux en Lituanie, Éric Biegala et Gilles Gallinaro. Plusieurs blessés, des dizaines d'arrestations hier soir à Jérusalem lors d'une nouvelle manifestation anti-Netanyahou. Reportage de Michel Paul. Également au sommaire, l'appel aux États européens lancé par la cofondatrice de SOS Méditerranée, dont le navire humanitaire, l'Ocean Viking, est bloqué dans un port sicilien. Et puis les œillades de Jean-Luc Mélenchon aux écologistes, le leader de la France insoumise prononce en ce moment même le discours de clôture des amphis d'été de la France insoumise dans la Drôme. Sarah Tuchereur est sur place. Hier soir, le président biélorusse a revu les troupes déployées près de la frontière polonaise. Posture et déclaration martiale, les forces armées en état d'alerte sont prêtes à réprimer toute action de la part de celles et ceux qui répondraient favorablement à l'appel à manifester de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de file de l'opposition, réfugiée en Lituanie, qui défie à distance Alexandre Loukachenko. Bonjour Éric Biegala.
Bonjour Mathieu.
Éric, en Lituanie où vivent 20 000 Biélorusses, 23 août 2020, une vaste mobilisation prend la forme d'une chaîne humaine, tout un symbole.
Oui, pour toute la région, hein, en Biélorussie bien sûr, mais également pour les pays baltes et même pour l'Ukraine, cette journée du 23 août revêt un symbolisme particulier. C'est l'anniversaire en effet d'une des plus grandes chaînes humaines jamais constituées sur 675 kilomètres. C'était en 1989, il y a 31 ans exactement, une chaîne réunissant 2 millions de personnes environ le long de la frontière orientale des trois pays baltes. Une manifestation qui réclamait l'indépendance de ces pays baltes vis-à-vis d'une URSS déjà moribonde, les trois États baltes ayant été annexés par la Russie soviétique durant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, ce sont des chaînes humaines de solidarité avec la Biélorussie qui doivent être organisées dans une soixantaine de villes de 32 pays. La plus importante partira ce soir de la place de la cathédrale de Vilnius, la capitale lituanienne, et s'étendra jusqu'à la frontière biélorusse sur une trentaine de kilomètres. Et elle promet de réunir pas mal de monde. 20 000 personnes se sont formellement inscrites sur le groupe Facebook organisant l'événement. 35 000 autres envisageant également d'y participer. En tout, il y aurait donc potentiellement de quoi constituer une double chaîne humaine de 30 kilomètres. À l'origine du projet, la chaîne lituanienne devait en rejoindre une autre, biélorusse, de l'autre côté de la frontière, mais il semble que le régime d'Alexandre Loukachenko a pris des mesures coercitives, policières et même militaires pour empêcher tout rassemblement à proximité des frontières occidentales de son pays. En Biélorussie, c'est donc à Minsk, au cœur de la capitale, qu'une fois de plus, l'opposition a convoqué son principal rassemblement de protestation. La dernière manifestation de ce type, dimanche dernier, avait rassemblé au moins 100 000 personnes à Minsk et au moins autant dans les autres villes du pays. C'était déjà la manifestation la plus importante que la Biélorussie ait jamais connue.
Merci à vous, Éric Biegala et Gilles Gallinaro, en direct de Vilnius. C'est désormais un rituel. Depuis le début de l'été, des milliers de personnes se rassemblent en Israël et demandent la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou, accusé de corruption, de malversation et abus de confiance dans une série d'affaires. Benjamin Netanyahou, dont la gestion de la crise sanitaire est de surcroît contestée jusque dans son propre camp. À ces mises en cause, il faut ajouter le compte à rebours politique qui oblige le gouvernement à faire voter le budget avant lundi minuit, faute de quoi il faudra de nouveau organiser des élections, les quatrièmes en un peu plus d'un an. Michel Paul a suivi à Jérusalem l'un de ces rassemblements anti-Netanyahou.
La honte, scandent les manifestants à l'issue d'une des manifestations les plus violentes depuis le début de la contestation. Cela fait 9 semaines que des dizaines de milliers d'Israéliens se rassemblent, notamment Jérusalem, face à la résidence du Premier ministre. Des échauffourées ont éclaté hier soir entre manifestants et policiers et un haut gradé a été filmé alors qu'il bousculait et frappait un des manifestants avant de procéder à son arrestation. Une situation insoutenable pour Yemima Arnon, une des organisatrices de ces rassemblements.
Ils nous poussent et nous poussent. Ils se comportent comme des animaux, pas comme notre police. Ils oublient que leur rôle est de nous protéger.
À moins de 2 jours de la possible dissolution de la Knesset, plusieurs députés appellent à une enquête sur ces violences policières et Yair Lapid, le chef de l'opposition, affirme pour sa part sur son compte Twitter « Les participants aux manifestations les plus justes de l'histoire du pays ne peuvent pas être victimes de violences policières.
La pandémie, un drame au Pérou, 13 morts à Lima à la suite d'une bousculade dans une discothèque due à l'intervention de la police venue faire respecter le couvre-feu. Les clients ont tenté de fuir par l'unique porte d'entrée. La ministre des Femmes, Rosario Sacieta, s'est déplacée sur les lieux de la tragédie, laissant éclater sa colère à l'encontre des responsables de l'établissement. Insupportable aux yeux des sauveteurs qui, dans les eaux méditerranéennes, volent au secours des réfugiés qui fuient la misère. Insupportable ces blocages de navires humanitaires, dont l'Ocean Viking, navire de l'ONG SOS Méditerranée, retenu depuis le 22 juillet en Sicile par les autorités italiennes, qui prétendent qu'il transportait trop de passagers lors de sa dernière arrivée au port de Porto Empedocle le 7 juillet, argumentaire bancal, cynique et déplacé, selon Sophie Beau, cofondatrice et directrice générale de SOS Méditerranée.
Il faut absolument démanteler ces filières de passeurs, mais il faut aussi tendre la main aux personnes qui se noient devant nos yeux aux portes de l'Europe. L'un n'empêche pas l'autre et il n'est pas exclusif. La mer Méditerranée ne doit pas être un vaste cimetière. Les bateaux de sauvetage doivent être libérés pour pouvoir mener cette mission parce que aujourd'hui, en fait, la situation humanitaire reste catastrophique en mer Méditerranée. Il y a un nouveau bateau qui vient juste de repartir. Il est arrivé vraiment ces derniers jours là sur place. Tous les autres ont été bloqués les uns après les autres. Et pourtant, les traversées continuent parce que les gens fuient la Libye, qui est un pays soumis au chaos le plus total. Donc ils continuent, malgré le danger, à prendre la mer sur ces embarcations tout à fait inaptes à la traversée. Ça a été démontré encore une fois par les chiffres de cette année lorsqu'il n'y avait aucun navire humanitaire en mer. Il n'y a pas de corrélation entre le nombre de personnes qui traversent et la présence ou pas de sauveteurs. Par contre, il y a une corrélation très forte avec le taux de mortalité qui a explosé parce qu'il n'y a personne pour les secourir. On est revenu en arrière après la crise du Covid-19. Chaque État a fermé ses frontières, a arrêté d'accepter ces naufragés de Méditerranée. Et du coup, l'Italie et Malte se retrouvent à nouveau seuls et complètement isolés en première ligne. Et donc, les ONG sont les boucs émissaires de cette situation, finalement, où les États ne prennent pas leurs responsabilités. Mais au-delà de l'Italie et de Malte, hein, qui bloquent des navires, il faut vraiment pointer l'inaction des États européens qui ne sont pas solidaires et qui ne l'ont jamais été avec ces deux États en première ligne.
Des propos recueillis par nos confrères de France Info. Les incendies continuent de ravager le nord de la Californie et les bulletins météo ne forcent pas à l'optimisme. 120 000 habitants ont d'ores et déjà dû quitter leur domicile. Les conditions climatiques devraient encore se détériorer ce dimanche avec du vent et de nouveaux orages. Loïc Piala nous appelle de Los Angeles.
Le pire n'est pas derrière nous, a prévenu le chef des pompiers californiens. Même avec près de 14 000 hommes et femmes sur le terrain désormais, le nombre et l'ampleur des incendies les rendent impossibles à maîtriser à court terme. Une alerte météo est en vigueur jusqu'à 5 heures du matin lundi. Les autorités craignent des vents forts, mais surtout une série d'éclairs qui pourraient déclencher de nouveaux départs de feu. Depuis plusieurs semaines maintenant, l'État fait face à une vague de chaleur qui ne facilite pas le travail des secours. La visibilité réduite limite aussi l'apport des moyens aériens. Le LNU Complex Fire, au nord de San Francisco, est devenu en quelques jours seulement le deuxième plus grand incendie de l'histoire de la Californie. Il a déjà fait au moins 4 morts et détruit plus de 500 structures. Même à distance respectable des flammes, San Francisco et San José, les deux plus grandes villes de la région, subissent les conséquences des incendies. La fumée donne parfois l'impression de les recouvrir de brouillard. La qualité de l'air y est l'une des pires du monde en ce moment.
Venons-en à l'estrade de ce dimanche dans la Drôme et aux amphis d'été de la France insoumise dont le leader Jean-Luc Mélenchon s'est dit soucieux ces derniers jours de, je cite, d'aller à l'essentiel, fin de citation, comprendre, faire ce qu'il convient de faire, nouer les alliances qu'il convient de nouer pour remporter la victoire en 2022. Jean-Luc Mélenchon qui en ce moment même est à la tribune. Bonjour Sarah Tucherer.
Bonjour.
Sarah, un discours, verdi à souhait.
Oui, Jean-Luc Mélenchon a débuté son discours par un long développement sur le Covid qu'il voit comme le syndrome d'une humanité qui court à sa perte, qui saccage son environnement et détruit ses ressources. La solution, selon lui, tout changer, rompre avec cet ordre du monde, notamment par la relocalisation des productions, une mesure de survie, a-t-il assuré. Le Covid, toujours, qui a fait prendre du retard aux écoliers. Jean-Luc Mélenchon propose de recruter des milliers de jeunes pour assister les enseignants, un recrutement sur le modèle des emplois jeunes des années Jospin. Le chef de file des Insoumis qui a dit également un mot du gouvernement et de son plan de relance, critiquant sévèrement les aides au secteur automobile et aéronautique. Il a également mis en doute sa capacité à faire face à une deuxième vague de l'épidémie. Une fois déroulées ses thèses, déjà exposées précédemment, il n'y avait là rien de nouveau. Jean-Luc Mélenchon est enfin passé à la question de la présidentielle. se moquant des médias qui évoquaient une déclaration de candidature imminente. Pourquoi le ferais-je ? Vous me considérez déjà comme un candidat en permanence depuis 2012, c'est ce qu'il a dit. La priorité, selon lui, c'est l'urgence sociale. Dans ce contexte, il est absurde de se demander qui sera candidat. Jean-Luc Mélenchon qui a tout de même promis de dévoiler le calendrier de son mouvement avant la fin de son discours. C'est ce qu'il est en train de faire, hein, puisqu'il est toujours à la tribune derrière moi.
Merci. Merci à vous, Sarah Tuchereur, en direct de Châteauneuf-sur-Isère. Quelques mots de la météo de l'après-midi en France métropolitaine. Temps ensoleillé et venteux sur le sud-est, variable ailleurs. Ce journal a été préparé avec François-Charles Domergue à la technique, Pierre Faucillon.